Sinon, je ne serais pas là comme ça. C'est lié à la pensée que je vais vous partager aujourd'hui. C'est l'été et je vous dirais que je suis fatigué. Oui. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment Dieu agit. Dieu ne nous appelle pas et ne nous demande pas d'être des super-héros. Dieu nous demande simplement de lui faire confiance. Et le mot confiance contient la foi, contient l'authenticité devant lui. Le mot confiance contient l'obéissance à sa parole. Et ce matin, avant de continuer, je veux vraiment remercier l'équipe de Louange parce que les chants décrivent tout le cœur que Dieu a déposé dans la parole que je vais vous partager. Ça contient tout le cœur du message. Et je veux remercier Yamilette et l'équipe de Louange pour cette écoute de Dieu. Et c'est drôle, chaque chant a une parole puissante qui est tirée des Écritures. Et tantôt Dieu parle d'une façon, tantôt Dieu parle d'une autre façon. Et on n'y prend pas garde. Mais ce matin et pendant l'été, prenez garde à ce que Dieu vous dit. Et prendre garde ou porter attention à ce que Dieu veut faire. Sans fin, il me cherche ou tu me cherches, je l'ai retranscrit, sans fin, il te cherche. Dieu nous cherche sans fin. Il ne s'arrête pas de nous poursuivre, de nous chercher, de désirer passer du temps avec nous, de désirer nous communiquer la vie. Pendant le temps de prière ce matin, j'ai dit à l'équipe de louange, attendez-vous à quelque chose de la part de Dieu. Alors que vous obéissez, alors que vous lui communiquez à toute l'équipe, à toute l'église, communiquez votre foi, votre soif de Dieu. Attendez-vous à lui. Et je dis, ne vous attendez pas à la Lamborghini. Des fois, on a une perspective, on dit, Seigneur, c'est ça que je veux. C'est lui que je veux, c'est elle. Je veux qu'elle soit comme ça, ma future épouse. Mais Dieu n'est pas à notre service. Nous sommes au service de Dieu. Dieu n'est pas notre fils. Nous sommes ses enfants. Et attends-toi à lui. Et il y a cette pensée qui est venue alors qu'il y avait ce chant qui reprenait « Sans fin, tu me cherches » et moi j'ai écrit « Sans fin, il te cherche ». Il y a dans le livre de l'Apocalypse, concernant celui qui était digne d'ouvrir le livre que le Très-Haut, que Dieu tenait dans la main droite. Et il y a un ange qui a dit « Qui est digne d'ouvrir ce livre ?» Et personne n'a été trouvé dans les cieux, sur la terre et même sous la terre, digne d'ouvrir le livre que Dieu tenait dans la main droite. Et alors que Jean a cette vision, il se met à pleurer. Il se met à pleurer. Et il y a un des anciens qu'il voit en vision, un des anciens qui vient vers lui et qui lui dit au verset 5 de Apocalypse chapitre 5, l'un des anciens me dit, ne pleure pas, car le lion de la tribu de Juda, le rejeton de la racine de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sceaux. Ce matin, il y a au moins une parole pour quelqu'un qui pleure peut-être en cachette dans le secret. Dieu te dit, ne pleure pas. Parce que le lion de la tribu de Juda a été trouvé digne. L'agneau de Dieu qui a été immolé et qui est ressuscité a été trouvé digne d'ouvrir le livre de ta vie et d'accomplir ce que Dieu a déclaré sur ta vie. Ne pleure pas ce matin. Ne pleure pas cet été. Parce que Dieu est digne. Jésus est celui qui peut ouvrir, accomplir ce que Dieu a préparé d'avance. Plusieurs commentateurs bibliques parlent du livre comme étant tout ce qui est de la volonté de Dieu, ce qu'il a décidé d'accomplir pour l'humanité, au milieu du peuple, au milieu de l'humanité, au milieu du peuple de Dieu, ce que Dieu a décidé d'accomplir dans l'humanité est écrit dans ce livre. Et le seul qui a été digne de l'ouvrir, de l'accomplir, c'est Jésus. Avant de passer à mon message, nous sommes l'été, il fait chaud, et il y a 4 livres que je voudrais vous recommander. Le premier, le plus important, c'est la Bible. J'ai une version entre les mains qui s'appelle, qui est une traduction selon la version Second 21, mais qui est enrichie de notes d'études archéologiques et historiques. Il y a un seul exemplaire disponible à la librairie. Si ça t'intéresse, c'est génial. Tu peux t'en procurer une. Le format qui est à la librairie est un format avec couverture rigide, donc c'est plus facile de transporter. Donc si tu prévois prendre quelques jours de vacances, aller dans le sud ou te mettre en short de bain et aller dans ton jardin, tu peux prendre ta Bible avec toi et Dieu va te parler. Le deuxième livre dont j'aimerais parler, c'est « Il y a plus ». Qui a ce livre-là déjà ? Ok, il y a plus. C'est un excellent livre qui parle justement de comprendre, de se réapproprier les principes bibliques de la transmission de l'onction, des gens qui ont soif et faim de Dieu. Il y a une histoire qui m'a marqué, l'histoire d'une femme, mère de famille, qui disait plus. Seigneur, je lis le livre des Actes des Apôtres, je lis l'Évangile, je lis ta parole. Il y a des miracles, il y a une action qu'on voit dans les Écritures, une action de toi. Je veux le vivre aujourd'hui. Et elle a été vraiment bouleversée. Elle a commencé à chercher Dieu. Dieu l'a poussée dans des temps de prière. Elle allait dans les supermarchés, elle priait pour des gens, les gens étaient touchés, étaient guéris. Alors, je pense que c'est un excellent livre pour l'été. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait l'avoir? Ok. Alice. Cadeau. Ok. Il y a un troisième livre qui s'appelle « La puissance surnaturelle d'un esprit transformé, accès à une vie miraculeuse ». Un très bon livre, il est pas cher, c'est 24 pièces. Il n'y a pas eu d'inflation appliquée là-dessus. Disponible à la librairie. Alors je vous encourage, faites un tour après la célébration. Prenez le temps de regarder les livres qui sont là. Et puis si vous avez à cœur d'en acheter un, faites-le vraiment... je vois un jeune couple ici. J'ai à cœur de vous le donner. Joseph et Michel. Patricia, tu es là? Oui, tu comptabilises, ok? Ce sera mis sur mon compte. Alors, oui, l'autre moitié. Juste te lever. Alors, on veut vous remettre ce livre-là. Prenez le temps. C'est les jeunes mariés. Vous êtes mariés, vous avez quoi? Une semaine et un jour de mariage. Ouais, mais tourne-toi. OK. Ah, wow. OK. Une semaine et un jour. Soyez bénis. Soyez vraiment bénis et que vous puissiez vivre la transformation surnaturelle de Dieu. Dieu a des projets de paix pour vous. OK. Alors, bonne lecture pendant cet été. Bon, le dernier livre, La guérison, dialogue à bâton rompu, Bill Johnson, Randy Clark, conversation entre deux hommes expérimentés sur le ministère de la guérison. Celui-là, je ne vais pas le donner, il faut que vous puissiez vous le procurer, c'est le seul exemplaire que nous avons à la librairie. On va voir si on peut en commander d'autres, c'est magnifique. D'entendre justement, c'est en fait, Randy Clark et Bill Johnson avaient pour vision de faire un matériel pour étudiants d'école biblique. Et ils ont décidé justement de s'asseoir puis de se poser des questions. C'est une initiative de Randy Clark. Et c'était trop bon. Alors qu'ils filmaient, ils ont dit non, on ne peut pas s'arrêter à du matériel juste pour des étudiants. On va en faire un livre. Et Randy Clark a fait toute une série de vidéos avec différents hommes et femmes de Dieu, Eddie Baker, Claudio Frazon, justement pour qu'on connaisse un petit peu leur cœur. Comment Dieu a agi? Qu'est-ce que Dieu a fait? Comment Dieu les a amenés à vivre ce qu'ils vivent aujourd'hui? Et il y a le même patron de questions. Alors, pour ceux qui sont intéressés, pourrez-vous le procurer à la librairie? All right. Bon. Merveilleux. Alors, le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Vive le repos ». Vive le repos de Dieu. Et il y a deux aspects majeurs qu'on va aborder aujourd'hui. Et avant de parler, de vous partager ce que Dieu a déposé sur mon cœur, j'aimerais prier. Alors, accordez-moi 30 secondes et on va prier ensemble. Ça vous convient? Seigneur, ce matin, nous voulons te laisser nous sortir de nos sentiers battus et marcher dans la voie que tu as préparée d'avance pour nous. Seigneur, tu connais nos cœurs mieux que nous-mêmes. Tu sais, Seigneur, ce qu'on vit, ce qu'on porte, loin des regards. Et Seigneur, tu désires te révéler, tu désires te faire connaître. Et tu parles tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Seigneur, je prie ce matin que nos cœurs ne se laissent pas distraire, mais que nos cœurs soient attentifs à ta parole, attentifs à qui tu es, attentifs à ce que tu fais, à ce que tu déclares, ce que tu veux relâcher. Seigneur, nous voulons nous soumettre à ta parole, Père. Nous voulons nous soumettre à toi, Saint-Esprit. Seigneur, que nos cœurs, Seigneur, soient réceptifs. Non pas réceptifs à la parole d'un homme, mais nous voulons être réceptifs à ta parole. Nous voulons être réceptifs à ce que toi, tu dis. Seigneur, touche, conduis nos cœurs. Touche-nous, Père. Nous voulons saisir et nous voulons vivre la transformation qui se trouve en Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors, j'ai intitulé cette pensée « Vive le repos de Dieu ». Et dans cette dimension de l'été en famille, des fois, nous vivons dans une famille, par exemple, monoparentale, où nous sommes de jeunes célibataires qui avons notre propre appartement, emploi du temps, mais nous avons quand même une famille rapprochée, ou si nous n'avons pas de famille, de parents, donc de tante, de père ou de mère près de nous, nous avons au moins des amis. Et souvent, les amis sont comme notre deuxième famille. Et si nous n'avons pas d'amis, tu peux aller chez Jean Coutu. Non, c'est pas vrai. C'est une vieille publicité d'une pharmacie. On retrouve même un ami chez Jean Coutu. Mais si tu n'as pas d'amis, si tu n'as pas de famille, tu peux trouver une famille en l'Église de Jésus-Christ. Et une famille, normalement, c'est un lieu où on peut être authentique. Des fois, malheureusement, on peut vivre une authenticité qui est toxique, qui est blessante, mais je crois qu'une famille en santé est un lieu où on peut être vrai, on peut être soi-même, on peut grandir, on peut s'épanouir. Et c'est dans toute cette perspective que je me tiens devant vous ce matin. Et nous allons voir ensemble c'est quoi le repos. C'est quoi le repos de Dieu? Et nous allons aussi voir comment vivre le repos de Dieu en prenant comme modèle un pan de l'histoire de David dans 1 Samuel chapitre 30. Tu sais, au départ, 1 Samuel chapitre 30, le premier verset, ou même 1 Samuel chapitre 29, les derniers versets, tu as l'impression que tu es en plein été. David va se sauver d'une guerre, d'un conflit. OK? Et là, ils rentrent chez eux. Ils vont rentrer chez eux, puis on va lire le texte un peu plus tard. Mais on a l'impression que c'est pendant l'été. En tout cas, moi, je l'ai lu dans cette perspective-là. Je n'ai pas fait de vérification historique. Mais ça me donnait l'impression, une perspective, qu'on est en plein mois d'août, il fait chaud, le soleil est là, l'humidex est élevé, et ils rentrent chez eux. David, avec ses 600 hommes, ils vont retrouver leur famille. Ils ont eu de gros mois de travail et ils vont retourner chez eux. Ils vont retrouver leurs enfants, leur épouse. Et ils sont contents. Ils se sauvent d'une guerre parce qu'on ne voulait pas d'eux sur le champ de bataille. Donc, tu t'évites des blessures. Tu sais, la CSST, il n'y en avait pas à cette époque. Donc, c'est une bonne chose. Ils rentrent chez eux. Donc, on va voir ça. Tantôt, je vais, dans cette partie où je vais utiliser justement 1 Samuel chapitre 30, je vais essayer de vous emmener 6 points qui parlent de comment vivre le repos de Dieu. Et avant d'aller là, avant que vous puissiez vous endormir, parce que je sais qu'il a fait chaud, certains ont mal dormi cette nuit, j'aimerais lire Matthieu chapitre 11, verset 29, en introduction. Parce que Dieu désire que tu puisses vivre le repos de Dieu. Et dis à ton voisin, Dieu désire que tu puisses vivre son repos. Je balais l'assemblée en ligne. Dieu désire que tu puisses vivre son repos. Et Jésus va le mentionner. Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école. C'est la version Summer pour ceux qui veulent suivre ce texte avec moi. Donc, Matthieu 11, verset 29. Version Summer, ça veut dire « Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école. » C'est une invitation à prendre le joug de Jésus et de se mettre à son école. La version Second 21 va dire « Laissez-vous instruire par moi. » Et je ne veux pas me mettre à l'école de certains YouTubers. Je vous le dis d'emblée. J'entends des vertes et des pas mûres des fois sur YouTube. Mais me mettre à l'école de Jésus, c'est la meilleure chose qu'on puisse faire. Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. On est dans un univers, on est dans une époque où on désire vivre le repos, se reposer, jouir du fruit de nos activités, de notre travail. Et j'entendais, en fait, on me partageait que depuis les deux dernières années, les gens, en général, ne font plus de plans à long terme pour leurs vacances. Ils planifient pas leurs vacances dans un an ou dans deux ans, ils planifient leurs vacances dans 3 mois, dans 4 mois. On veut aller en vacances, on va s'ajuster, on va prendre nos vacances dans 3 mois ou dans 4 mois. Parce qu'ils veulent vivre, ils veulent bénéficier du fruit de leur travail. Mais Jésus nous rappelle que le repos pour nous-mêmes se trouve en lui. Alors c'est intéressant de se poser la question, c'est quoi le repos dont Jésus parle? Parce que lorsqu'on regarde le mot repos, on va ou se reposer, c'est une cessation d'activité. C'est une pause, on s'arrête. C'est l'état de celui qui a terminé un travail ou qui est mort. Okay? Il est rentré dans le repos éternel. Okay? Le repos, c'est aussi l'expression du délassement, de la détente. Matthieu 26, verset 45, va dire, « Puis il revint vers ses disciples et leur dit, c'est Jésus, vous dormez maintenant et vous vous reposez. » Parce qu'ils étaient fatigués, donc ils se reposaient. « Voici l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré entre les mains des pécheurs. » Donc, se reposer à cette dimension de cesser une activité pour retrouver des forces. Mais ce terme a un sens particulier dans la Bible. Et c'est dans ce sens-là que je veux qu'on s'arrête. Dans la Bible, le repos consiste à jouir de la communion avec Dieu et à observer ses commandements. Le repos qui existait lors de la création a été suspendu à cause du péché. Vous réalisez, si on retournait dans Genèse chapitre 1 et 2, nous allons voir que c'est drôle. Le texte biblique va dire que l'homme et la femme ont été créés le sixième jour, Et je n'irai pas dans des débats de savoir si c'est littéral ou... Mais il y a un principe d'étape. Et il faut se rappeler à qui étaient destinés ou qui étaient les premiers destinataires du Pentateuque, dont fait partie le livre de la Genèse. Ce sont c'est le peuple d'Israël, ce sont des bergers, ce sont des éleveurs. Et ils avaient besoin de savoir pas comment le monde a été créé, mais de savoir qui l'a créé. Il y a une différence. Et on va voir qu'au sixième jour, Dieu a créé l'homme et la femme et il a trouvé ça très bon parce que la femme est arrivée. Parce que si on lit Genèse chapitre 2, il donne les détails. Il a d'abord créé l'homme et puis il a dit « il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Donc, il manquait quelque chose de majeur. Et quand il a créé la femme à partir de l'homme, quand il a créé Isha, là, Dieu a dit « c'est très bon ». Right. Donc, il y a eu, on a changé de niveau, d'accord? Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Dieu s'est reposé le septième jour. Donc, la première activité humaine, après la création de l'être humain, c'est quoi? C'est de rentrer dans le repos de Dieu. Ok? Et à cause du péché, on est sorti. Le repos qui existait en Dieu a été suspendu. Laisse-moi te dire que le repos que Jésus offre n'est pas une cessation d'activité, mais c'est un repos intérieur dans l'activité. Regardons Ésaïe chapitre 28, le verset 12. Il leur avait dit, « Voici le lieu de repos. Laissez se reposer celui qui est fatigué. Voici le moment de la détente. » Mais ils n'ont pas voulu écouter. Ésaïe 28, verset 12. Et ce matin, je veux nous encourager à réaliser que Dieu veut qu'on rentre dans son repos. Qu'il ait toute la place dans notre cœur, dans notre vie. Et même dans l'activité, nous ne sommes pas agités. Actuellement, si on regarde le monde, on voit que dans la création, il y a une agitation qui règne. Et c'est toi, le Job va en parler. Il dit, l'être humain est né de la femme, sa vie est courte, mais pleine d'agitation. Il y a différents défis auxquels le monde est confronté et la création n'est pas en repos. La nature ne vit pas de repos en ce moment. La terre elle-même ne connaît pas le repos. Il y a des guerres et des bruits de guerre qui la remplissent constamment. Nous dit Matthieu 13, verset 7. Et ce matin, je voudrais qu'on réalise que Dieu nous appelle à rentrer dans son repos, de marcher dans la paix qui se trouve en Christ, de marcher avec lui. Et comme je vous disais, j'aimerais qu'on puisse regarder un pan de l'histoire de David pour réaliser ou pour illustrer la forme de repos dont il est question en Jésus-Christ. Et j'aimerais, et mon souhait, c'est que dans les jours, les semaines à venir, que nous puissions prendre cette illustration comme inspiration pour notre propre vie. La semaine dernière, je partageais un principe de l'ingénierie inverse. C'est de la rétroconception. C'est quoi l'ingénierie inverse? Au départ, c'était un principe qui était appliqué par des compagnies concurrentes qui, par exemple, voudraient copier un iPhone, en produire un nouveau téléphone intelligent en se basant sur la technologie d'Apple. Je prends ça comme exemple. Donc, il se procurait l'appareil, il le démontait pour comprendre comment il fonctionnait et il se mettait à reproduire quelque chose de similaire ou avec des modifications ou des améliorations dans le nouvel appareil qu'il créait. Donc, on parle d'ingénierie inverse. C'est de prendre un produit fini, de l'étudier et de le recopier, de faire pareil. Et je crois que en Christ, on peut faire de l'ingénierie inverse. On peut prendre la parole de Dieu, voir qu'est-ce que Dieu dit. Quand Dieu dit « David était un homme selon son cœur », tu observes sa vie, ce qu'il a bien fait, tu fais pareil. Ce qu'il a mal fait, tu dis « Seigneur, aide-moi à ne pas faire comme lui et à être un homme ou une femme qui soit selon ton cœur. » C'est de l'ingénierie inverse. Et dans ce contexte, en prenant le texte de 1 Samuel chapitre 30, on va voir comment David a appliqué des principes du repos qui se trouve en Christ, alors que Jésus n'était pas encore venu sur terre. Et en prenant cette illustration, on peut dire, Seigneur, je veux faire pareil. C'est très simple. Et alors que nous sommes en plein mois d'août, je veux nous inviter à rentrer dans le repos qui se trouve en Jésus-Christ. Tu peux le faire en jeans, tu peux le faire en short de bain, mais arrange-toi pour dire, Seigneur, maintenant j'ai besoin de toi parce que je suis fatigué. J'ai besoin de toi parce que j'ai mis des choses devant toi, mais peut-être ce n'est pas la Lamborghini que tu veux me donner. Okay? Parce qu'en assurance, ça coûte cher. En essence aussi. Mais je veux prendre ce que tu as pour moi parce que tu es mon créateur. Tu sais comment tu m'as créé, comment tu m'as conçu. Et je veux te plaire, je veux marcher avec toi. Alors, si on regarde ce texte, on va le lire ensemble. Et si vous voulez prendre des notes sur vos appareils ou sur un cahier, faites-le. Parce qu'il y a 6 points que je vais faire ressortir. Vive le repos de Dieu, le premier point. Et je vais citer les 6 points, puis on va regarder le texte. Et vous allez essayer de faire cet exercice, de voir, OK, à quoi est lié ce point par rapport au texte qu'on va lire ensemble. Ça vous va? Vivre le repos de Dieu, c'est puiser de nouvelles forces en se confiant en Dieu. Vivre le repos de Dieu, le point 2, c'est se tourner vers Dieu. C'est porter l'éphod, on va le voir. Vivre le repos de Dieu, c'est écouter Dieu. Donc, écouter sa parole et ses directives. Ce n'est pas entendre, mais c'est écouter. Quand tu écoutes quelqu'un, tu appliques ce qu'il te dit. Vivre le repos de Dieu, c'est donc écouter Dieu. Écouter sa parole et ses directives. Vivre le repos de Dieu, c'est s'asseoir ou être assis. Et j'aime ce chant qui disait... J'ai pris en note, c'est « Je désire habiter près de toi ». Vivre le repos de Dieu, c'est désirer habiter. Le mot « asseoir » dans l'hébreu peut être traduit par « habiter ». C'est habiter près de Dieu, près de Jésus. Vivre le repos de Dieu, c'est agir par la foi selon sa parole. Et vivre le repos de Dieu en si, c'est manifester le cœur de Dieu. Vous savez, dans 1 Samuel chapitre 30, on sort en fait d'un contexte et il faut réaliser que des fois les livres bibliques comme 1 Samuel, ce n'est pas écrit de façon chronologique, des fois c'est écrit de façon thématique. Et là, David était pourchassé par Saül. On est dans ce moment de la vie de David où il est pourchassé par Saül et il va se réfugier auprès d'un roi philistin qui s'appelle Achish. Et il va servir ce roi parce qu'il y avait plusieurs rois ou plusieurs princes philistins à cette époque-là. Et David va s'attacher à l'un d'entre eux qui s'appelle Achish. Et il va le servir, et David va le servir avec 600 hommes qui restent avec lui. C'est quand même toute une église, quoi. Oui, puis sans compter les femmes et les enfants. Donc 600 hommes. Et là, il va travailler pour lui, il va faire il va combattre pour le roi Achish. Et ce que David va faire, c'est qu'à certains moments, Il ne va pas, il va jamais attaquer le peuple d'Israël, alors que Saül le poursuit, mais il va attaquer des Amalécites, il va attaquer certains Cananéens qui faisaient des incursions en Philistie et qui attaquaient des fois les Philistins. Et là, les Philistins sont en train de se préparer à attaquer Saül et Israël. Alors David, en short, non, probablement habillé en habit de Yahidi, à Akish, je suis prêt, mes 600 hommes sont prêts, on va t'accompagner et on va combattre aussi à tes côtés. Et là, ils sont au quartier général des Philistins. Le roi Akish, avec les autres rois ou les autres princes philistins, ils regardent le plan, la stratégie d'attaque. Et là, les Philistins disent, avec toi, comme garde du corps, tu as David. Ce même David qui était la source d'un chant qui a fait, qui était dans le top 10 des meilleurs chants de la région, qui disait que Saül a battu ses 1000 et David a battu ses 10 000. C'est ce même gars qui est ton garde du corps, on ne le veut pas avec nous. Parce qu'on ne sait jamais, peut-être qu'il va se retourner contre nous, et là, ça ne va pas marcher. Donc là, ils disent, on refuse qu'il aille à la guerre avec nous. Donc, le roi Akish va dire à David, retourne chez toi, retourne dans la ville que je t'ai donnée, où tu vis, à Tisglad, et on va se revoir après la guerre. Donc, David part. Et on voit donc dans 1 Samuel chapitre 29, verset 11, David et ses hommes se levèrent de bonne heure pour partir dès le matin et retourner dans le pays des Philistins. Quant aux Philistins, ils montaient à Jézréel. Donc là, tu as l'impression que c'est l'été, c'est les vacances. C'est vraiment les vacances pour... ils n'ont pas de guerre à livrer. Ils n'ont pas besoin d'aller en Ukraine. Et avant de continuer, j'aimerais qu'on puisse prier pour ce conflit qui se passe en Europe de l'Est, mais aussi pour les différents conflits. Y a-t-il des ressortissants, des frères et sœurs, ou dans votre région natale, il y a des conflits armés? Juste levez la main. Okay, gardez la main levée, OK? All right. OK. On va faire un truc, je ne veux pas que ce soit trop long, parce que je ne veux pas que vous ayez de crampes, mais on va garder le bras levé. Dire, Seigneur, vois ma main et secours ma nation, secours ma région. Parce que Dieu ne désire pas que les peuples s'entretuent, Dieu désire apporter la paix. Et moi, alors que je lève le bras, je vais prier aussi pour ce conflit en Europe de l'Est. Seigneur, tu vois ces mains, ces bras levés. Et Seigneur, alors que nous sommes dans une région où il y a la paix, il n'y a pas de conflit armé, mais tu vois, Seigneur, d'où nous venons, Seigneur, tu vois toutes ces régions qui sont en conflit, Père. Tu vois les familles qui sont divisées, qui sont séparées. Tu vois, Seigneur, des mères qui perdent leur fils. Des épouses, des fils et des filles qui perdent leur papa ou leur époux. Seigneur, je prie maintenant, Seigneur, que tu puisses créer une brèche, qu'il y ait une brèche pour apporter la paix, qu'il y ait une brèche pour apporter, Seigneur, le salut, qu'il y ait une brèche pour apporter, Seigneur, la vie, la paix. Là où les ténèbres règnent, Seigneur, que ta lumière puisse... luire, jaillir. Seigneur, nous prions, Seigneur. Nous prions, Seigneur, que plusieurs puissent se tourner vers toi. Seigneur, que la paix s'instaure, mais plus que ça, que le salut rentre dans les vies, dans les foyers, dans les familles, dans les villes, dans le nom de Jésus. Amen. Donc, David retourne chez lui et vous allez voir que lorsque l'ennemi de notre âme passe par une brèche, Dieu est capable de nous secourir. Alors nous allons faire la lecture de ce texte, je vais tâcher de le lire rapidement, mais alors que je vais lire ce texte, essayez de replacer peut-être un point des 6 points que j'ai mentionnés. Vivre le repos de Dieu, c'est puiser de nouvelles forces en se confiant en Dieu. Vivre le repos de Dieu, c'est se tourner vers Dieu, porter l'éphod. Vivre le repos de Dieu, c'est écouter Dieu, la parole de Dieu, les directives de Dieu. Vivre le repos de Dieu, c'est s'asseoir, être assis. Vivre le repos de Dieu, c'est agir par la foi selon la parole de Dieu. Vivre le repos de Dieu, c'est manifester le cœur de Dieu. Alors je lis à partir du verset 1. Deux jours plus tard, lorsque David arriva à Tisglag avec ses hommes, les Amalécites avaient lancé une attaque dans le Negev et à Tisglag. Ils avaient détruit et brûlé Tisglag après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands. Ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route. En arrivant à la ville, David et ses hommes virent qu'elle était brûlée et que leurs femmes, leurs enfants, leurs fils, leurs filles avaient été faits prisonniers. Alors David et la troupe qui l'accompagnaient se mirent à pleurer tout haut jusqu'à ce qu'ils n'aient plus la force de pleurer. Les deux femmes de David, Achinoam de Jisréel et Abigaël de Carmel, la femme de Nabal, avaient été emmenées. David fut dans une grande angoisse, car la troupe parlait de le lapider. Tous éprouvaient en effet de l'amertume, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Je vais m'arrêter là pour le moment. Le premier point, puiser de nouvelles forces en se confiant en Dieu. Vous savez, lorsqu'on donne sa vie au Seigneur, Dieu ne nous... Ce n'est pas une promesse de ne plus avoir des preuves, c'est fini. De croire cela, c'est un mensonge. Mais lorsqu'on donne sa vie à Dieu, lorsqu'on marche avec Dieu, lorsqu'on lui fait confiance, c'est la garantie qu'il est avec nous. Et David est un exemple d'un homme qui connaît Dieu et qui marche avec lui. Nous sommes dans une période de sa vie où c'est que des défis qu'il a. Mais c'est un homme qui se confiait en Dieu. Ce n'était pas un homme parfait, mais c'est un homme qui connaissait celui qui était parfait et qui est parfait. Et c'est étonnant de voir que face à toute situation, David avait cette tendance à consulter Dieu, à se tourner vers Dieu. Vous imaginez, tu reviens de travail, c'est vendredi soir, vendredi après-midi. Tu es à la veille de ton départ en vacances avec ta famille et tu rentres chez vous et tu apprends une mauvaise nouvelle. Tu apprends, par exemple, que tu dois retourner au travail parce que l'entreprise est en crise et on te dit à 13h, tu nous rencontres dans le bureau du patron et on te dit, mais il faut que tu reviennes la semaine prochaine parce qu'il y a telle personne qui est malade à cause de la COVID et on a besoin de régler ce dossier. On doit pouvoir signer ce contrat. L'avenir de l'entreprise est en jeu. Ou à 13h, tu es convoqué au bureau de ton patron. On te dit, mais nous savons que vous partez en vacances. Vous avez pris 2 semaines, vous avez pris 3 semaines. Mais le lundi qui suit, c'est plus nécessaire de revenir. Ça peut arriver. Il y a comme une brèche par laquelle une mauvaise nouvelle s'est glissée, une situation a pris place où l'ennemi carrément est venu mettre du trouble. Tu rentres à la maison et il y a telle situation de santé qui prend place. Et David, avec ses hommes, rentrait à Tisglag, content de revoir leur famille. Et qu'est-ce qu'ils trouvent? C'est une ville qui est dévastée. Je ne veux pas être porteur de mauvaises nouvelles, mais il y a des mauvaises nouvelles dans la vie. Et des fois, les réseaux d'information veulent donner des bonnes nouvelles, mais tu dis, tu as l'impression que c'est tellement loin de toi. C'est, ah oui, telle compagnie a investi 2 millions... 25 millions à droite, il dit oui, mais moi, dans mon portefeuille, il n'y a aucun million qui est rentré. Mais David, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est confié en Dieu. Parce que pire encore d'avoir cette nouvelle-là, on voulait le tuer. Et des fois, il y a une telle pression que tu as l'impression de dire, mais peut-être que la mort m'est préférable. Peut-être que la bouteille de scotch ou la bière est préférable pour essayer d'anesthésier, d'oublier cela. Mais David a fait le choix de se confier en Dieu. Et pour moi, ça me parle énormément. Parce que, par la grâce de Dieu, je ne me suis pas trouvé dans la situation de David. Mais il y a suffisamment de situations dans la vie où on a le choix de se tourner vers Dieu ou essayer de trouver un palliatif. Mais la meilleure chose à faire, c'est de se tourner vers Dieu. Et je dis, Seigneur, si tu dis de David, c'était un homme selon ton cœur, je pense que ce point-là faisait partie des caractéristiques qui faisaient en sorte que David était un homme selon le cœur de Dieu. Et je désire être un homme selon le cœur de Dieu. Je désire que tu sois un homme selon le cœur de Dieu. Je désire que tu sois une femme selon le cœur de Dieu. Que quand tu pries, tu ravis le cœur de Dieu. Ma première prédication à vie, je me souviens, j'étais un des leaders dans la jeunesse et j'ai apporté la parole. Le pasteur jeunesse m'a permis d'apporter la parole. Et j'ai parlé de Ruth, celle qui ravit le cœur de son bien-aimé. Je veux ravir le cœur de mon bien-aimé. Je veux ravir le cœur de Dieu. Je veux ravir. Tu sais, quand tu ravis le cœur de quelqu'un, il va te dire oui pratiquement tout le temps. Parce que tu parles aussi le langage de son cœur. Moi, je veux ravir le cœur de mon épouse. Donc, elle aime les temps de qualité. Je dois m'arranger pour lui offrir des temps de qualité. Je veux parler le langage de son cœur. Et ravir le cœur de Dieu, c'est parler le langage du cœur de Dieu. Et David parlait le langage du cœur de Dieu. Et on va le voir encore. Donc, au lieu de fuir, de prendre son âne ou son cheval et de courir loin de ses hommes, qu'est-ce qu'il a fait? Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Et simplement, il y a des versions qui vont dire même que Dieu est venu le fortifier pour lui donner du courage. C'est important de voir des fois des angles, certaines traductions de l'hébreu. Dieu est venu lui donner du courage. Et on va voir par la suite l'attitude de David. David non seulement prend courage en s'appuyant sur Dieu, mais il va se mettre à l'écoute de Dieu. Et ce que j'aime, c'est pourquoi j'ai mis le point 2, se tourner vers Dieu, porter l'éphod. Pourquoi dans le texte, il est dit au verset 7, il dit au prêtre Abiathar, fils d'Achimélec, apporte-moi donc l'éphod. Abiathar le lui apporta. David consulta l'Éternel en disant, dois-je poursuivre cette troupe? Réussirai-je à la rattraper? L'Éternel lui répondit, poursuis-la, car tu la rattraperas et tu délivreras les prisonniers. L'éphod est un vêtement qui était destiné uniquement aux prêtres, aux sacrificateurs. Mais David, il n'est pas prêtre. Il n'est même pas encore roi, bien qu'il ait eu l'onction, mais il n'était pas encore roi. Et laisse-moi te dire que c'est une illustration du cœur de Dieu. Vous savez, l'Ancien Testament, c'est magnifique parce qu'on voit concrètement des principes du royaume des cieux s'appliquer. Mais aussi, on voit la manifestation de la grâce de Dieu. Parce que l'onction était donnée à qui? Dans l'Ancien Testament, l'onction était donnée à des juges, à des prophètes et aux prêtres. Et aux rois. Mais un roi ne pouvait pas être prêtre en même temps. Vous me suivez? Mais là, David demande l'éphod, ce vêtement de lin que les sacrificateurs portent. parce qu'il voulait se tenir devant Dieu, dire « Seigneur, je veux savoir. Seigneur, tu vois notre situation. Je prends, tu es venu me fortifier. Mais Seigneur, il faut qu'on parle. J'ai besoin de me tourner vers toi. J'ai besoin, Seigneur, oui, il y a des principes, mais moi, j'ai besoin de toi, Père. J'ai besoin de ton cœur. J'ai besoin que tu me dises quoi faire. Tu sais, sous l'arbre, quand je gardais les brebis de mon père, je te louais, je t'adorais. Je me tenais dans ta présence. Et là, encore plus, j'ai besoin de me tenir dans ta présence. Toi qui es mon berger. Toi qui m'ont conduit vers de verts pâturages. Toi qui me roins d'huile. Lorsque je passe par la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Tu te souviens de mon adoration. Et maintenant, j'ai besoin de ton action, de ton intervention. Je me tourne vers toi. Et c'est, il y a la dimension « Seigneur, secours-moi ». Mais il y avait aussi la dimension « secours, secours mes hommes, vois leur détresse ». Le prêtre est celui, selon la Bible, est celui qui intercède en faveur du peuple. Ce n'est pas celui qui prend, qui abuse du peuple, mais celui qui se tient devant Dieu en faveur du peuple. Et David s'est tenu devant Dieu, oui, pour lui, mais aussi pour ses hommes. Vivre le repos de Dieu, c'est se tourner vers Dieu, se tenir devant lui. Seigneur, je me tiens pour ma vie. Mais Seigneur, aussi, des fois, tu me pousses à me tenir pour la vie de quelqu'un d'autre. Est-ce que vous est déjà arrivé de prendre un temps de prière? Ça ne va pas, vous avez une situation difficile. Ou vous, simplement un temps de louange. Seigneur, je te loue, ou Seigneur, tu vois mon gars, oh my, Seigneur, comment on va faire pour s'en sortir? Tu vois la facture, tu vois telle situation, ou des fois, juste un temps d'action de grâce, tu bénis Dieu, tu adores Dieu, et le Seigneur te dit, prie pour cette fille-là au travail qui t'énerve là. Commence à prier pour elle. Et puis, tu dis, ah oui, Seigneur, ok, tu pries pour elle. Et puis en plus, après avoir prié, je dis, Seigneur, je te présente mes besoins, tu n'as aucune réponse, rien. Tu vas te coucher et puis tu rêves de ta collègue. Tu dis, ah. Ou Dieu te dit, prie pour ton frère à l'église. Tu sais, celui qui est comme un gars de l'armée. Okay, il est toujours, tu as l'impression qu'il est toujours fier, un gars baraqué et tout. Et puis tu as un songe, puis Dieu te montre qu'il doit rentrer à l'école biblique. Puis toi, tu es tout fin comme un fil de fer. Tu dis, Seigneur, moi je rêve de gonfler un peu, mais ça ne marche pas. Je vais au gym, puis il n'y a pas de muscle qui s'installe. Mon épouse me dit, il faut faire un peu de sport. Je dis, oui, mais j'en fais, mais... Et puis tu vois ce frère-là, tu dis, ah, j'aimerais être comme lui. Puis maintenant, tu as une parole encore pour lui. Tu as un songe, puis Dieu te dit, prie. Parce que c'est le temps pour lui, il doit aller à l'école biblique. Dit ah. Porter l'éphod. Vous savez, même en été, même pendant les vacances, et Pasteur Marjorie, il y a quelques semaines, nous a partagé de choses qu'elle a vécues pendant nos vacances, de choses que nous avons vécues. Jésus n'est pas en vacances, heureusement. OK? Mais des fois, même pendant tes vacances, alors que même face à un défi, Dieu te met à cœur aussi de prier pour d'autres, comme David l'a fait. Et Dieu répond, poursuis-la, car tu la rattraperas et tu délivreras les prisonniers. David se mit en marche avec ses 600 compagnons. Alors, c'est déjà un défi de repartir. Tu sais, tu es supposé être en vacances, là. Puis tu retournes au boulot. Et puis tu repars avec ta gang travailler. Et puis c'est un gros défi. Tu t'en vas, puis tout le monde te suit. Et en cours de route, et vous savez, des fois, on dit, OK, Seigneur, on a eu cette épreuve-là, on va continuer, on te fait confiance. Et puis c'est droit, il y a quelque chose d'autre qui prend place. On va regarder. Alors, David se mit en marche avec ses 600 hommes, ses 600 compagnons. Ils arrivèrent au torrent de Besor. où ceux qui traînaient à l'arrière s'arrêtèrent. Alors tu dis à toute la gang, allez, on s'en va, on y va. Et puis il y en a qui ne sont plus capables. Verset suivant, verset 10. David continua la poursuite avec 400 hommes, tandis que 200 s'étaient arrêtés, trop fatigués, pour passer le torrent de Besor. Et je vais m'arrêter là. Il y a des moments où je me sens comme ces 200 hommes-là. Trop fatigué pour continuer. Trop fatigué pour passer un autre obstacle. Pour passer un torrent. Trop fatigué. Et je crois que on a le droit de s'arrêter. S'arrêter ne signifie pas abandonner. Mais ces 200 hommes se sont arrêtés. Et je crois que leur histoire nous invite à réaliser comment Dieu fonctionne. Parce que David ne les a pas repris, ne les a pas engueulés, ne les a pas chicanés, mais il a continué. Et des fois, dans notre vie, il y a des situations, on met ça devant Dieu, on a une victoire, et puis on fait un pas, deux pas de plus, et une autre tuile, un autre défi arrive. Mais Dieu te dit, persévère. Dieu te dit, continue. Et certains, des fois, Dieu leur dit, assieds-toi, arrête-toi. 200 s'étaient arrêtés, trop fatigués pour passer le torrent de Besor. S'étaient arrêtés, d'autres versions disent, étaient restés à l'arrière. En hébreu, ce mot signifie être assis, s'asseoir, demeurer, habiter. J'aime ça, habiter. Je désire habiter près de toi. Vous savez, ils se sont arrêtés au torrent. Peut-être qu'ils avaient besoin de reprendre des forces dans un lieu qui était frais. Si tu n'as plus de force, tu as le droit de t'arrêter. Si tu te sens, Seigneur, je ne suis pas capable de continuer, n'abandonne pas Dieu, mais arrête-toi près du torrent du Saint-Esprit. Arrête-toi près du torrent de sa parole. Il y a un matin, je me suis levé, je n'avais plus de force. Et c'était la deuxième fois que je vivais ça. La première fois, on vivait une situation, on avait fait de mauvais choix. Et oui, je n'étais pas pasteur encore, donc c'est pour ça que j'avais fait de mauvais choix à ce moment-là. Ça par rapport, c'est vrai. Mais j'étais dans une situation où on avait fait de mauvais choix. On avait précipité les choses. Et il y avait une pression et vers 3 heures du matin, je me levais, j'étais dans l'angoisse. Je dis, Seigneur, comment on va faire pour s'en sortir? Si j'étais célibataire, ou si j'étais pasteur, je n'aurais pas vécu ça, non, c'est pas vrai. Si j'étais célibataire, peut-être que j'aurais pu aller chez un ami, puis mais on devait déménager, mais on n'avait pas d'appartement où aller. Et je pense que je vous ai déjà raconté cette histoire. Mais il m'est arrivé une autre fois, à un moment donné, je me lève un matin, et puis il y a une pression, je dis, il était quelle heure? 3h34, oui, je me souviens. Il était dans la nuit, je me réveille, ok, il y a telle chose à régler parce que je suis pasteur. Seigneur, ce n'est pas évident, il y a telle chose, il y a des défis, on a des projets familiaux, il y a plein de choses. Et là, je dis, la seule chose que je peux faire, c'est je vais aller à la cuisine, je vais prendre ma Bible, je vais prendre mon cellulaire, mes écouteurs et je vais mettre de la louange. Et je dis, Seigneur, je vais chercher ta face. Je vais m'asseoir. Mon âme est agitée. Mais je ne vais pas m'aligner selon mon âme, mais je veux que mon esprit s'aligne avec la parole de Dieu. Vous savez, on nous dit manifester le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est notamment la maîtrise de soi. Donc, c'est dire, je prends la maîtrise de soi et je conduis mon esprit, même si mon âme est agitée, je conduis mon esprit près du torrent. Je conduis mon esprit près de l'eau de la parole. Je conduis mon esprit dans la présence de Dieu. Et je commence à adorer Dieu. Tu peux faire ça. Tu n'as pas besoin d'avoir un feeling. Tu le fais par la foi. Si David l'a fait, tu peux le faire. Parce que Dieu n'était pas en David. Jésus n'habitait pas en David. Mais toi qui as donné ta vie à Dieu, Jésus habite en toi. Et même si tu ne connais pas Christ, mais parce qu'il est mort, il est ressuscité, il te donne accès à Dieu. Et parle, tu dis, Seigneur, je veux te connaître. Ce Jésus qui est mentionné dans la Bible, Jésus, je veux te parler. Ça ne va pas, ma situation est catastrophique, mais je veux m'aligner à ce que la Bible dit. Seigneur, parle-moi. Et je vous dis, hein, j'étais là et je priais et je ne ressentais rien à part l'agitation de mon âme. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Et là, le Saint-Esprit a commencé à me parler à travers un texte biblique. Va voir l'histoire, va lire tel passage. Vois comment j'ai agi. Si je l'ai fait pour cette personne, je peux le faire dans ta vie. Et là, mon esprit, c'est comme vous, aligné avec la parole de Dieu. Et mon âme a suivi. Et mon corps s'est relâché. Il a suivi aussi. Vous savez, il n'y a pas de ténèbres ou de noirceur trop noire, trop sombre pour que Dieu n'intervienne pas. Dieu ne fait pas de compromis avec le péché. Mais nous qui sommes faillibles, Dieu veut intervenir. Sans fin, il te cherche. Et il essaie de parler ton langage, t'interpeller. Et Jérémie chapitre 6, verset 16 va dire ceci. Voici ce que dit l'Éternel, placez-vous sur les chemins, regardez et renseignez-vous sur les pistes qui ont toujours été suivies. Quelle est la bonne voie? Marchez-y et vous trouverez le repos pour votre âme. Mais ils répondirent, nous n'y marcherons pas. Ce qui est merveilleux avec Dieu, c'est que Dieu nous laisse toujours le choix. Mais Dieu nous dit, considère, vois ce qui est juste, vois ce qui est bon. Vois ce que David a vécu. Et il a marché sur mes voies. Il a fait ma volonté. Toi, fais la même chose. Jérémie parle d'hommes et de femmes dans les Écritures qui ont refusé d'obéir, qui ont refusé de faire confiance à Dieu. Mais aujourd'hui, on peut faire ce choix de mettre notre confiance en Dieu et de marcher dans ce qu'il nous demande de faire. De marcher dans sa parole. Donc, ces 200 hommes se sont assis, sont restés près du torrent. Et si tu es fatigué, et je vais inviter l'équipe de Louange à me rejoindre, si tu es fatigué, nous voulons prendre un temps pour nous asseoir près du torrent. Vous savez, pendant toute la louange, j'avais envie d'intervenir, de parler, de dire, mais tu peux te lever et puis venir louer Dieu en avant? Tu peux te mettre à genoux, tu peux t'asseoir, tu peux lever les mains. Tu peux te mettre contre un mur comme devant le mur des Lamentations si tu veux. Tu peux, tu t'es à la maison. Juste, si tu sais que tu transpires des pieds, garde tes souliers, c'est tout. Mais tu peux venir. Parce que Dieu veut te rafraîchir. Dieu veut intervenir. Et vous savez, David est parti. Et voyez, ce vivre le repos de Dieu, c'est agir par la foi selon la parole de Dieu. David est parti, il s'est mis à agir. Il s'est mis en mouvement. Et je crois que Dieu appelle le carrefour des nations, chaque individu que nous sommes, à nous mettre en mouvement. Pour notre propre cœur, pour notre propre vie, pour notre foyer, mais aussi pour notre église, pour cette ville, à nous mettre en mouvement. Je n'ai pas oublié la Sainte-Seine, on va la prendre. On est au torrent de Bézor et on va prendre la Sainte-Seine ensemble. Et David est allé, il est parti. Et vous allez voir, si on lit le reste du texte, et je vais juste lire quelques versets, mais alors qu'il est parti rattraper les Amalécites. Et vous savez, les Amalécites, dans l'histoire d'Israël, c'est un peuple qui détestait les Israéliens. Il les détestait, il détestait le peuple d'Israël. Et c'était, il y a une opposition. Et c'est une illustration, parce qu'aujourd'hui, il n'est pas question de se lever contre la chair et le sang et se battre contre des personnes, mais c'est une illustration d'une réalité spirituelle. Le diable, il ne t'aime pas. Et s'il peut te faire croire qu'il n'existe pas, pour te nuire davantage, il va le faire. Mais il œuvre sans relâche. Il est un lion rugissant qui bouge, qui essaie de voir où est la faille. Mais lorsqu'il y a une brèche, et même s'il y rentre, comme c'était le cas pour David, Dieu lui donne la victoire. Dieu donne et veut te donner la victoire. Et David est parti. Et ce qui est bénissant, c'est que sur la route, il y a un jeune Égyptien qui a été abandonné. Et je veux lire ce texte, et je ne sais pas si on peut avoir un peu de fond musical. Il dit, au verset 11, « Ils trouvèrent dans les champs un Égyptien qu'ils conduisirent vers David. Ils lui firent manger du pain et boire de l'eau. Et ils lui donnèrent un morceau d'un gâteau aux figues sèches et deux gâteaux aux raisins secs. Lorsqu'il eut mangé, les forces lui revinrent, car il n'avait pas pris de nourriture ni bu d'eau depuis 3 jours et 3 nuits. David lui dit, « À qui appartiens-tu ? Et d'où viens-tu ? » Il répondit, « Je suis un jeune Égyptien. J'étais au service d'un Amalécite. Mais voilà 3 jours que mon maître m'a abandonné parce que j'étais malade. Nous avons lancé une attaque dans le sud du territoire des Kérétiens, sur le territoire de Juda et dans la région, et au sud du territoire de Caleb. Nous avons brûlé Tisglag. » David lui dit, « Veux-tu me faire descendre vers cette troupe ?» Il répondit, « Jure-moi au nom de Dieu que tu ne me tueras pas et que tu ne me livreras pas à mon maître. Je te ferai descendre vers cette troupe. » Il lui servit ainsi de guide. Je veux défaire un mensonge. Cet Égyptien a été abandonné par son maître alors qu'il était malade. Si tu es malade, Dieu ne va pas t'abandonner. Si tu souffres, si tu es blessé ou si tu blesses, Dieu ne va pas t'abandonner. Mais il veut te guérir. Il veut te restaurer. Vous savez, on a lu ce texte où il est mentionné. David lui a donné du pain à manger et de l'eau à boire. Il y a une dimension de communion. Ce n'est pas du vin, mais c'est de l'eau. Mais une dimension de relation, une dimension de restauration. Sans savoir qui était cet Égyptien, ils ont pris soin de lui. David ne l'a pas abandonné à son tour, parce qu'il manifestait le cœur de Dieu. Et ce matin, nous allons nous arrêter ici, et la prochaine fois, je poursuivrai sur ce texte. Mais Dieu veut te rafraîchir. Dieu veut te rafraîchir alors que tu es au torrent ou alors que tu es dans les champs, que tu es blessé, tu es malade, tu es souffrant, tu es découragé, tu as des doutes, tu as des déceptions, tu vis une relation toxique, soit à la maison ou au travail. Dieu veut intervenir et il te dit, je ne t'abandonnerai pas. Vous savez, le maître de cet Égyptien, ce maître Amalécite l'a abandonné. Il ne l'a pas soigné, mais il s'en est débarrassé. Et vous savez, malheureusement, c'est la réalité dans ce monde. Le prince de l'air véhicule une façon de penser Si tu n'es pas efficace, on se débarrasse de toi. Mais Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu restaure, Dieu guérit. Dieu dit, arrête-toi, laisse-moi prendre soin de toi. Jésus a parlé du Samaritain qui a pris soin de cet homme qu'il a trouvé sur le chemin. Et on dirait que David a fait la même chose. Alors que, je ne sais pas si tout le monde, tous ceux et celles qui sont passés par les eaux du baptême ont une coupe, si l'équipe à l'accueil peut distribuer les coupes, juste lever la main. Si tu es passé par les eaux du baptême et tu n'as pas de coupe, lève la main, on va t'en donner. Ce matin, nous voulons nous arrêter. Et on veut prendre le pain. On veut boire le fruit de la vigne. Et on va le faire à cause de Jésus qui est mort et ressuscité. Il est l'agneau immolé. Ce matin, c'est un temps près du torrent. C'est un temps dans les champs du Seigneur, j'ai besoin de toi. Si tu as à cœur de te lever, alors qu'on va prendre ces éléments ensemble. Si tu as à cœur de te lever, tu peux le faire. Si tu as à cœur de sortir de tes rangs, tu peux le faire. Je suis trop concentré. Je ne vois même pas les... Si tu as besoin de t'arrêter au torrent, être ressourcé, c'est l'été. Tu peux te mettre de façon imagée en short de bain, dire Seigneur, je m'arrête, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Dieu ne s'attend pas à ce que tu aies une cravate, un veston, des beaux souliers, une belle robe, des talons bleus. Et tu ailles dans sa présence, dis là, Seigneur, je suis prêt. Cet Égyptien n'était pas en bon état. Les hommes, ces 200 hommes qui se sont arrêtés, des hommes qui connaissaient Dieu, des hommes qui avaient combattu, qui avaient remporté des victoires, ils disent, Seigneur, je veux m'arrêter. J'ai plus de force. J'ai besoin. Je veux restaurer ma communion avec toi. J'ai besoin d'être abreuvé. J'ai besoin de vivre ton repos. Nous allons le faire maintenant, mais à la maison. Tu peux aussi le vivre. Et vous savez, souvent dans des moments d'épreuve, dans des heures sombres, se trouvent les plus grands trésors. La lumière peut luire au milieu des ténèbres. Et Jésus, dans un moment critique, a redéfini l'alliance, a redéfini le pain et le vin de la Pâque. Et dans Matthieu 26, je vais lire ce passage, nous allons prendre les éléments ensemble. Juste vous rappeler que vous pouvez soulever la première pellicule pour avoir accès au pain. Matthieu 26, verset 26 va dire ceci. « Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et prononça la prière de bénédiction, puis il le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Ce matin, nous voulons être en communion avec Jésus, nous rappeler qu'il est mort à la croix pour nous, que sa chair a été rompue, brisée pour le pardon de nos péchés, pour la guérison. Notre guérison, notre être reconnecté, restauré, sauvé, reconnecté avec Dieu. Être en communion à nouveau avec Dieu. Être guéri. La parole de Dieu nous dit, nous sommes guéris par ses meurtrissures. Et ce matin, Nous voulons nous arrêter et prendre cet élément et le manger ensemble. Et je vous invite à prendre ce pain. Seigneur, nous voulons vivre ton repos qui se trouve uniquement en Jésus. Nous voulons vivre ce repos ce matin. Seigneur, que tu puisses nous donner des forces neuves, que tu puisses nous restaurer, nous ramener à ta vision, nous ramener à marcher selon ta volonté. Seigneur, nous fortifier. Seigneur, nous voulons vivre ton repos. Seigneur, alors que nous sommes ensemble et nous prenons ce pain, Seigneur, que tu puisses toucher les cœurs, que tu puisses mettre à la lumière, Seigneur, tout mensonge, et que ces mensonges, Seigneur, soient déposés au pied de la croix. Et nous voulons, Seigneur, saisir ta parole. Nous voulons saisir la vérité de ta parole. Nous voulons saisir Christ. Nous voulons te saisir, Seigneur. La parole de Dieu nous dit, au verset 27, il prit ensuite une coupe et remercia Dieu. Puis il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est versé pour beaucoup, pour le pardon des péchés. » Ce matin, je vous invite à prendre cette coupe. Vous pouvez défaire la deuxième pellicule. Et en prenant le fruit de la vigne, nous rappeler que cela représente le sang de Jésus, le sang de la nouvelle alliance, qui a été versé pour beaucoup, pour plusieurs, pour le pardon des péchés. Seigneur, nous ne sommes pas à l'abri des défis. Nous ne sommes pas à l'abri des épreuves. Nous ne sommes pas à l'abri des combats. Mais Seigneur, nous nous plaçons, Seigneur, à l'abri sous tes ailes. Seigneur, nous nous plaçons sous ta main, celle qui fortifie, celle qui relève, celle qui donne la force de continuer, celle, Seigneur, qui donne direction, celle qui affermit. Seigneur, ta parole dit que ta force se trouve dans ta main. Et Seigneur, nous nous plaçons sous ta main. Nous nous plaçons sous tes ailes. Et Seigneur, je te dis merci de ce que tu fortifies plusieurs, de ce que tu renvoies libre plusieurs dans le nom de Jésus. Seigneur, alors que nous sommes réunis et nous voulons nous rappeler ta mort, mais aussi ta résurrection, nous rappeler que tu es le repos de Dieu. Seigneur, alors que nous voulons nous rappeler cela, Seigneur, si nous sommes éprouvés, nous pouvons nous lever. Si nous avons besoin de forces nouvelles, nous pouvons nous lever. Si nous avons besoin de porter l'effort, de nous tenir dans ta présence, nous pouvons ce matin nous lever. Si nous avons besoin d'écouter Dieu, si tu as besoin d'écouter Dieu ce matin, alors que l'équipe de louange va nous conduire dans un chant, dans un temps simplement dans la présence de Dieu. Si tu dis, Seigneur, j'ai besoin de porter l'éphod. J'ai besoin de me revêtir du vêtement du prêtre, de celui de celle qui se tient devant Dieu. Oui, pour mes besoins, mais en faveur d'autres, de d'autres personnes. Je t'invite à te lever. Si tu as besoin de t'asseoir, je m'excuse pour le pionnage. Si tu as besoin de t'asseoir, lève-toi. Seigneur, j'ai besoin de m'asseoir dans ta présence. C'est pourquoi je me tiens debout maintenant. Et nous allons simplement parler à Dieu. Avoir un cœur à cœur avec Dieu. Si tu as besoin d'être soigné comme cet Égyptien, si tu souffres dans ton âme, si tu souffres dans ton corps, si tu souffres dans ton entendement, dans tes pensées, lève-toi. Et avec l'équipe de louanges, on va simplement adorer Dieu. Je vous invite à le faire avec l'équipe.
Les étoiles ont pleuré, le soleil s'est voilé, car le sauveur du monde